Oh, mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Les Nouvelles du Monde pour ce mardi 9 juin 2026. Dans la deuxième partie de cette émission, on ira en Bolivie, essayer de comprendre un petit peu ce qui se joue autour de la révolte populaire qui en est à sa cinquième semaine et d'un possible, une possible état d'urgence décrété par le président. On va aussi s'intéresser aux éleveurs de nos zones pastorales qui doivent subir maintenant une nouvelle tracasserie administrative au niveau des terres qu'ils utilisent, notamment pour faire pâturer leurs différents troupeaux, et ce, pour obtenir les aides de la PAC. Voilà, quelque chose qui risque de mettre à mal grandement cette économie dans un avenir proche. Et pour ce qui est de la première partie de l'émission, eh bien, j'ai concocté pour vous un petit bouquet d'informations, on va dire, toutes relié par la notion du féminisme et des différentes luttes qui y affairent. Puisque c'est en effet le mois des fiertés, hein, le mois de juin de cette année et de toutes les années précédentes. Donc un mois pour mettre en visibilité les luttes et les minorités de genre ou sexuelles. On commence donc cette petite série avec un retour déjà sur ce qui s'est passé ce samedi à Saint-Guilhem-le-Désert. Je vous en avais parlé la semaine dernière. C'était la marche de la fierté occitane qui était organisée par un groupe d'identitaires en reprenant donc les codes de la fierté. Eh bien, vous allez voir que ça a pris un petit tournant un peu amusant. Cette marche donc de la fierté occitane a tourné court face à une contre-mobilisation festive et pour le coup, une marche des fiertés. C'est en effet un groupe de militants, militantes LGBT qui est venu en amont pour aussi reprendre les ruelles de ce petit village. Hein. Donc le samedi, une trentaine de militants d'extrême droite avaient appelé à une marche de la fierté occitane à Saint-Guilhem-le-Désert en l'hommage de Guillaume de Gérone, hein, le fondateur du village, auquel ils attribuent des vertus de défense de l'identité catholique. Ils se sont retrouvés face à plus de 80 personnes, plutôt colorées, elles, hein, paillettes, perruques et jolis habits, on va dire, colorés, face à donc plutôt des jeunes hommes en noir et virils et sportifs. Donc un contre-rassemblement des fiertés. Alors ces identitaires étaient venus célébrer donc leur version de la fierté occitane. Hein. Ils ont fini par repartir escortés par deux quarts de gendarmes et un hélicoptère. Donc elle n'aura pas eu le déroulé espéré par ses organisateurs. C'était d'ailleurs un article publié dans le journal Le Point jeudi dernier qui informait de cette organisation et qui a suscité cette contre-mobilisation qui s'est préparée juste quelques jours avant. Ils l'ont fait d'ailleurs savoir eux-mêmes dans un communiqué rendu public le lundi 8 juin. C'est ce qu'expliquaient les participants à cette contre-manif. Le journal révélait donc l'organisation d'une marche identitaire dans Saint-Guilhem-le-Désert par des militants d'extrême droite qui voulaient faire de ce Guillaume de Gélone un héros de la reconquête anti-sarrasine. La mairie de Saint-Guilhem d'ailleurs désapprouvait fortement l'événement à l'unanimité du conseil municipal, mais ne pouvait pas l'interdire faute d'éléments qui auraient caractérisé un trouble à l'ordre public, donc la manifestation était autorisée. Arrivés au point de rendez-vous annoncé par les identitaires, les contre-manifestantes et manifestants ont d'ailleurs constaté l'absence des organisateurs, hein, ils étaient un petit peu en avance, et ont commencé donc de leur côté une déambulation dans les ruelles du village, une marche des fiertés. C'est au détour de ce cortège qu'ils se sont retrouvés donc face à la trentaine de militants d'extrême droite qui étaient dans le village. Ils les ont invités à marcher ensemble, mais visiblement ces derniers auraient adopté, selon leur communiqué, une ligne de défense, donc ils se sont tenus bras dessous pour couper court à tout dialogue. Je vous fais écouter un petit extrait des vidéos qui ont été tournées. Vous allez voir, il y a vraiment deux salles, deux ambiances.
En avant, 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 en av
Voilà, la suite a été décrite plutôt comme tendue, hein, des menaces verbales, des chants nationalistes, et selon les signataires donc, du communiqué de la marche des fiertés LGBT, au moins un coup violent qui a été porté au visage d'un des participants. Une plainte d'ailleurs devrait être déposée. Incapables en tout cas de poursuivre leur marche, les militants identitaires se seraient ensuite repliés sur les marches de l'église Saint-Laurent, pour une série de photos et de prises de vue hein, pour leurs réseaux sociaux, sous la protection des gendarmes. Des engins pyrotechniques type fumigène auraient été allumés, ce qui a d'ailleurs nécessité l'intervention des autorités pour les éteindre, et ils ont ensuite été raccompagnés hors du village, donc par les forces de l'ordre. On a parlé d'ailleurs beaucoup des morts, par exemple, de ce jeune identitaire Quentin de Ranquin, qui a bénéficié d'une minute de silence à l'Assemblée nationale. Visiblement, il n'en sera rien pour ce jeune Noam, qui, ce mardi 2 juin, a été déclaré en état de mort cérébrale, 3 jours après la violente agression dont il a été victime. Noam était âgé de 19 ans. C'était à Metz, le samedi 30 mai, au petit matin, avec ses proches. Il s'apprêtait à rentrer chez lui, en sortant donc 2 soirées, en compagnie de 4 amis dans le centre de Metz, en Moselle. 3 individus s'en sont pris à lui, le frappant plusieurs fois à la tête. Une de ses proches, qui était présente ce soir-là, explique à Mediapart qu'ils s'en sont directement pris à lui, parce que voilà, Noam se maquille, Noam est efféminé. Le lundi 1er juin, donc 2 hommes de 20 et 27 ans ont été mis en examen pour ces violences, avec violence et tentative d'homicide par personne agissant, en état d'ivresse manifeste, puisque c'était au petit matin, donc tout le monde sortait de soirée visiblement. Ils ont été placés en détention provisoire, c'est ce qu'annonçait le procureur de la République de Metz. Les faits devraient être requalifiés en homicide volontaire, et sur les réseaux sociaux, le collectif Stop Homophobie a de son côté rapidement dénoncé donc une agression homophobe d'une extrême violence, en rappelant que les éléments rapportés par les proches et les témoins font également état donc d'injures à caractère homophobe, même si pour l'instant le parquet ne prenait pas cette caractérisation dans les faits. D'ailleurs, l'association Stop Homophobie appelait l'association Couleur Gay un rassemblement à Metz pour rendre hommage à Noam, c'était le mardi 2 juin au soir. Dans un premier temps, le traitement par les médias a été d'évoquer une rixe, encore une fois, qui aurait éclaté entre Noam, ses proches et un autre groupe. Ça fait penser à la rixe des hooligans à Paris, là. Alors que c'était plutôt une espèce de descente organisée. D'ailleurs, la version de la préfecture a été démentie par l'entourage de la victime. Un de ses amis, qui est cité par exemple dans Le Républicain Lorrain, dans un article de mardi dernier, témoigne. Je peux juste vous dire que les choses relatées dans la presse, ça ne s'est pas passé comme ça, il n'y a pas eu de rixe, il n'y a pas eu de coups échangés, ce sont eux qui se sont jetés sur nous, et c'est nous qui avons été frappés. Voilà, Mediapart a fait un petit travail d'enquête avec les témoins, avec le récit de deux personnes présentes ce soir-là, il a retrouvé la chronologie, un début d'interaction en sortant de soirée, donc entre ces deux groupes, le groupe des jeunes hommes avec leurs enceintes Bluetooth connectées, les autres qui s'amusent devant, qui se filment. Ça ne plaît pas à ceux qui ont la musique. Et ça commence à échanger des coups, d'ailleurs 2 fois de suite. Hein. Et un des témoins explique qu'une des personnes a projeté donc Noam sur le dos. Celui-ci est donc tombé, sa tête s'est éclatée par terre. Le cousin s'est interposé, mais quelqu'un l'a pris par le col, lui mis un coup de poing et lui a pété le nez. Il est tombé, lui, et ne s'est réveillé qu'à l'hôpital. La présence d'ailleurs des blessures sur son visage a été confirmée par le parquet. Et avant de s'en aller, donc un des agresseurs a de nouveau frappé le jeune Noam en lui assénant 2 coups de pied à l'arrière de la tête, ce qui se fait beaucoup dans les milieux très violents, en mode football. Et ses deux amis sont convaincus qu'il a été ciblé par homophobie, puisque des insultes et des gestes obscènes ont été faits par les assaillants quand ils sont partis. Voilà, SOS Homophobie rappelle que ces dernières années, le climat pour les personnes LGBT+, est de plus en plus anxiogène et délétère. En 2025, l'association a recensé plus de 1700 signalements d'actes de LGBT-phobie contre 1500 en 2024, ce qui fait environ 13% de plus. Et voilà, je rappelle que les minutes de silence ou le traitement médiatique unilatéral, eh bien, c'est visiblement plus pour les néo-nazis que pour des jeunes ciblés pour leurs orientations sexuelles. J'en profite aussi, puisqu'on parlait des chiffres, pour relater cette nouvelle investigation qui a été une enquête faite par la cellule investigation de Radio France, qui est relatée dans les colonnes du journal Alter Midi, qui s'appuie sur des documents internes et des entretiens inédits avec des responsables de la DGSI et du parquet national antiterroriste. On y apprend que la tendance masculiniste et sa menace, notamment pour la frange la plus radicale, inquiète donc les renseignements et qui y voit un phénomène prenant de plus en plus d'ampleur. Ce masculinisme radical a été longtemps minimisé. Il est donc désormais surveillé comme une menace terroriste émergente. Les autorités s'inquiètent ainsi de profils toujours plus jeunes, nourris par des communautés en ligne où la misogynie se transforme parfois en projet de violence et de passage à l'acte. La mouvance masculiniste radicale est donc désormais considérée comme une menace sérieuse par l'antiterrorisme ou la sécurité intérieure. Et ils alertent sur la montée en puissance de ce qu'on appelle la sphère incel, qui en anglais veut dire involuntary célibataire, donc les célibataires involontaires, sous-entendu qu'ils n'arriveraient pas à trouver la personne avec qui faire couple, en tout cas ils n'arriveraient pas à rencontrer de femmes. Et certains membres en arrivent donc à prôner ouvertement la violence contre les femmes, justement. Il est rappelé par exemple cette interpellation en juillet 2025 à Saint-Étienne d'un lycéen de 18 ans qui était soupçonné de préparer une attaque contre plusieurs jeunes femmes. Et ça a marqué un tournant donc, dans la prise en compte de ces violences au niveau des forces de surveillance. Pour la première fois en France, donc, un adepte revendiqué de cette idéologie incel a donc été poursuivi dans un dossier à caractère terroriste. La menace reste minoritaire au sein de l'ultra-droite, parce qu'elles sont un petit peu reliées, mais la DGSI observe une évolution préoccupante. Je vous le disais, les profils des gens surveillés sont plus jeunes, parfois âgés de seulement 14 ou 15 ans, et ils se radicalisent beaucoup plus rapidement, avec notamment le phénomène d'amplification qui arrive avec l'utilisation des réseaux sociaux, notamment TikTok et Instagram. Ceux-ci constituent des portes d'entrée vers des contenus qui vont mêler mal-être psychologique, misogynie et aussi fascination pour les tueurs de masse et des images ultra-violentes qui vont venir avec. Les enquêteurs pointent aussi d'ailleurs les liens croissants donc, entre cette mouvance incel et certaines communautés en ligne qui glorifient l'ultra-violence. On peut ajouter à cela des campagnes de harcèlement visant notamment des associations féministes, des militantes ou bien des structures comme le planning familial ou le 3919, c'est la ligne d'écoute nationale destinée aux femmes victimes de violences. Au-delà donc des passages à l'acte, les professionnels de l'éducation et du monde associatif constatent aussi une diffusion inquiétante des discours masculinistes dans les collèges et les lycées. Face à ce phénomène, les autorités renforcent la formation des magistrats, des policiers et des services spécialisés, tandis que plusieurs organisations appellent à une stratégie nationale de prévention contre cette idéologie qui banalise la haine des femmes et dans ses formes les plus radicales peut conduire à la violence terroriste. Et on rappelle que pendant le même temps, justement, les associations qui font de la prévention, elles sont fortement empêchées souvent d'accéder à ces jeunes et de pouvoir, par exemple, animer des ateliers dans les collèges, etc. etc. Voilà, vous pouvez retrouver en détail donc, tout ce qui a été rapporté dans cette enquête si vous allez sur la cellule Investigation de France Info. C'est un rapport qui a été mis en ligne le 5 juin.
Je fais what? Mais d'où ça sort quoi? D'où ça sort?
Puisqu'on est là-dedans, tiens, on va parler de Patrick Bruel. Il est en garde à vue et cette garde à vue a été prolongée de 24 heures, a annoncé ce mardi matin le parquet de Nanterre. Patrick Bruel, chanteur célèbre, accusé de viol, d'agression sexuelle et de harcèlement sexuel par une trentaine de femmes. Il est donc pour 24 heures de plus entendu par le parquet de Nanterre, qui est celui qui centralise toutes les procédures visant le chanteur. C'est donc normalement demain matin qu'il sortira. Ce chanteur et comédien de 67 ans est auditionné depuis lundi matin dans les locaux de la police judiciaire sur des faits qui concernent à ce stade 13 victimes qui ont déposé plainte, ce qu'explique le procureur dans son précédent communiqué. Selon le parquet de Nanterre, donc l'enquête en cours porte sur les faits qui sont dénoncés par trois femmes mettant en cause Patrick Bruel pour agression sexuelle et tentative de viol. C'était en 97, 2000 et 2001. Mais les enquêteurs examinent aussi des faits de viol ou de tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement qui sont dénoncés par d'autres victimes identifiées lors des investigations et qui d'ailleurs, ça fait effet boule de neige, de plus en plus de témoignages sortent et sont publiés. Parmi les autres faits d'ailleurs étudiés par la justice, la dénonciation d'un vol à Dinard en 2012 par une femme âgée de 32 ans au moment des faits. Patrick Bruel devra également être interrogé sur une dénonciation officielle venant des autorités belges suite à une plainte pour viol et agression sexuelle. C'était en 2010 à Bruxelles, une femme qui était alors âgée de 40 ans. Patrick Bruel conteste lui l'ensemble des accusations. Mais sous pression, il a annoncé l'annulation de la majeure partie de sa prochaine tournée qui devait commencer mi-juin à Paris avant de l'emmener dans différents festivals. Et il a par exemple été déjà déprogrammé en Suisse, je crois que c'était au Paléo. Le planning familial, je vous le disais, est dans le collimateur de pas mal d'autorités, notamment celles qui tendent bien vers la droite. Et encore un nouvel exemple, s'il en fallait. La mairie Rassemblement National élue à Carpentras qui vient d'annoncer supprimer la subvention municipale de 3000 euros qu'elle accordait auparavant au planning familial. Cette décision a suscité une vive polémique nationale hein, et l'antenne du Vaucluse s'en est émue sur les réseaux sociaux. Ils ont mis en place une cagnotte qui a récolté déjà plus de 4000 euros de dons, donc ils s'en sont fortement émus et remercient tous les donateurs. Cette cagnotte avait donc été lancée suite à la suppression de la subvention décidée par la mairie, qui ne cachait pas d'ailleurs le caractère politique de cette décision. En tout cas, la vague de soutien nous réchauffe le cœur, écrit l'association dans une publication sur Facebook. Elle est primordiale pour notre équipe et les 25 000 personnes que nous rencontrons chaque année. Le planning familial dit donc rester sur ses gardes en craignant que la coupure des subventions ne devienne dans un avenir proche une arme politique contre les associations jugées trop woke. Quant au maire de Carpentras, Hervé de Lepineau, je vous le disais, il a justifié sa décision par le fait que l'association, donc le planning familial, le mouvement pour le planning familial, qui a été fondé en 1960, qui milite pour les droits sexuels et reproductifs, ne cesse de taper sur le RN, dit-il, puisque notamment l'association accompagne l'accès à une contraception et à l'avortement. Et donc le maire de Carpentras épinglait dans le même temps une campagne d'affichage parisienne en assurant que l'association n'était pas là pour leur pourrir davantage le cerveau, pour aggraver la question de leur identification, de leur identité. Voilà comment on qualifie le planning familial chez le Rassemblement National. Et on peut rappeler que justement l'antenne du Vaucluse est une association qui dispose d'agréments nationaux, hein, avec des formations encadrées, 22 salariés y officient, des médecins, des gynécos, des psychologues, des conseillers, conseillères conjugales, des animateurs de prévention. Et cette association agit toute l'année sur le Vaucluse à travers des consultations en gynécologie, des dépistages, des accompagnements pour des avortements et aussi des accompagnements pour les victimes de violences sexistes ou sexuelles, etc. etc. La cagnotte est toujours en ligne hein, sur leur page HelloAsso. C'est Mouvement français pour le planning familial Vaucluse. Allez, je termine avec une petite annonce pour clore cette volée d'articles autour du féminisme. Un rendez-vous à Ganges la semaine prochaine de mécanique justement féministe et autogérée vous est proposé par l'association Les Déculassés. Les Déculassés, c'est une association française de mécanique automobile féministe. Elle est basée à Montpellier. L'objectif est de lutter contre les préjugés et les stéréotypes de genre, donc se réapproprier les savoir-faire techniques de base pour devenir plus autonome sur l'entretien de nos voitures et aussi faire face des fois aux garagistes qui ne se font pas toujours dans la finesse et qui en profitent un petit peu pour gonfler les devis par exemple. En tout cas, l'association Les Déculassés fait une tournée dans le département de l'Hérault pour faire une escale Cambouis. C'est le nom donc de cette petite journée. Ça se passera à Ganges donc, le lundi 15 juin sur le parking du boulodrome José Garcia, à savoir entre la communauté de communes et le skatepark. Et donc, sur ce parking, vous sera proposé une journée 100% mécanique pour vous aider en cas de problème avec votre voiture et répondre à toutes vos questions de mécanique auto. Je vous rappelle que c'est destiné aux femmes. C'est en tout cas une journée de mécanique féministe. Pendant la journée, de 9h à 11h, vous pourrez assister à un atelier d'initiation à la mécanique auto. Pour être plus autonome avec sa voiture, comprendre le fonctionnement d'un moteur, avoir les bases sur l'entretien, mieux gérer des situations d'urgence, par exemple des problèmes de démarrage, des pneus crevés, etc. L'atelier est gratuit et sur inscription sur le site web qui est lesdéculassés.org, déculassés E-E-S. Et enfin l'après-midi, donc de 14h à 19h, une permanence de conseils vous attendra Un bruit bizarre ou un voyant allumé, une ampoule cassée, des pneus usés ou dégonflés, projet d'achat pour une voiture d'occasion, des questions sur un devis ou sur le contrôle technique, envie de découvrir le moteur et d'apprendre à faire ses niveaux, elles seront là pour répondre à toutes vos questions. C'est en accès libre avec ou sans voiture. Par contre, il n'y aura pas de réparation sur place, hein. On ne fera que discuter. Voilà, lesdéculassés.org, et nous, on essaiera d'y traîner aussi avec notre micro lundi prochain. Alors, on continue notre petit tour de France, et là, on va aller dans les montagnes, les alpages et les zones pastorales, en tout cas, avec un drame en préparation. En tout cas, on s'inquiète beaucoup par rapport à l'octroi des aides de la PAC. Les agriculteurs devront en effet désormais prouver qu'ils ont un droit d'usage sur les terres qu'ils exploitent. Donc ça concerne tous les agriculteurs, une mesure qui vient de l'Europe. Cette mesure est encore floue, mais donc on s'inquiète dans le monde pastoral, car la situation foncière est justement très compliquée. On est sur un foncier morcelé, des troupeaux qui vont visiter beaucoup, beaucoup, beaucoup de terrains privés, donc des fois on ne sait même plus du tout à qui ils appartiennent. Un exemple dans cet article, cette enquête menée par le journal Reporter, une éleveuse, Céline Charbonnier, qui a une centaine de brebis, qu'elle élève avec sa fille dans une vallée reculée de la commune de La Souche. Elle explique par exemple avoir là un îlot où il y a une quinzaine de propriétaires différents. Ce sont des parcelles pentues situées à plus de 500 mètres d'altitude qui vont de quelques dizaines à plusieurs milliers de mètres carrés et qui appartiennent à des familles que parfois plus personne ne connaît. Ainsi, d'après les calculs de cette éleveuse, sur les terrains qu'elle utilise, il y a environ 25 propriétaires différents, dont une partie qui sont décédés, sans parler de ceux qui ont déménagé, voire qui ne sont même pas au courant qu'ils sont propriétaires. Autrefois, ces terrains étaient entretenus par chaque foyer qui menait une agriculture vivrière. Les petits terrains ont progressivement été abandonnés avec l'exode rural, parfois même donc oubliés. Et bien désormais, les agriculteurs devront prouver que les terres qu'ils déclarent utiliser, pour lesquelles donc ils touchent des subventions de la PAC, puisque ça se base sur des calculs très compliqués mais qui sont liés aux surfaces, et bien que ces terres sont utilisées avec l'accord des propriétaires concernés. S'il n'y a aucun bail de location formel, ils devront au moins fournir une attestation aux agriculteurs pour leur permettre d'être en règle. Et donc cette éleveuse s'inquiète en disant qu'on a déjà bien assez de galères entre le sanitaire, le climat et puis l'administratif qui ne sort par les yeux. On aimerait juste qu'on nous laisse faire notre métier. En France, c'est très courant. En plus, rares sont donc les zones pastorales qui vont échapper à cette problématique. Contrairement aux grandes plaines agricoles, les territoires de montagne n'ont quasiment pas été remembrés. Donc dans ces régions, le foncier, c'est un damier avec des minuscules confettis de parcelles qui sont issus de générations de multiples transmissions et d'héritages, voire même d'embrouilles familiales. Donc formaliser la mise à disposition de ces confettis pour que vienne passer un troupeau de temps en temps paître, ça implique pour les éleveurs de retrouver des dizaines, voire des centaines de propriétaires selon les zones. Sauf, il faut noter quand même que sont exclus de ces demandes les alpages d'estive, qui sont eux souvent contrôlés par l'État ou la commune, hein, on est sur des zones de haute montagne par exemple, donc là c'est tranquille. Mais en tout cas, voilà, pour ce qui est de retrouver les propriétaires, ça peut être des sujets passionnants d'indivision sur trois générations, hein. Ça en amuse un petit peu avec ironie Mathias Chevillon, qui est délégué de la Confédération Paysanne d'Ariège, qui fait partie d'ailleurs de la commission PAC interne du syndicat agricole, et qui aide les éleveurs donc à faire ces dossiers. Il explique qu'aller rechercher le propriétaire qui peut, par exemple, habiter maintenant en Nouvelle-Zélande et qui ne sait même pas qu'il a trois timbres-poste dans la montagne pyrénéenne, c'est le jeu de piste auquel sont censés se livrer donc les éleveurs. Un autre exemple est fourni dans cet article. Un éleveur qui est en Ardèche, qui est depuis 2018, s'est lancé dans l'élevage après une reconversion et qui a donc trouvé ses terrains au compte-gouttes, au gré des rencontres. Il a aujourd'hui 180 brebis qui vont pâturer sur une centaine d'hectares, qu'on lui prête ou qu'on lui loue, le plus souvent sans aucun papier, aucun document souvent n'est signé. Et d'ailleurs, cet éleveur en est persuadé que même s'il trouvait la centaine de propriétaires, il refuserait de signer tout document écrit, car en effet, les propriétaires ont peur de perdre, en signant quelque chose, de perdre l'accès à leurs biens. Donc souvent, ces accords se font à l'oral. Et même sur quelques terrains qu'il possède, lui, donc, dont il est propriétaire, il y a au milieu des fois des petits confettis donc, qui ne sont pas à lui, qui sont à d'autres propriétaires. En tout cas, face à toutes ces nouvelles mesures, donc ces éleveurs se disent démunis. Il leur est impossible, vous l'aurez compris, de retrouver tous leurs propriétaires, mais impossible aussi de ne pas déclarer les terrains qu'ils utilisent, sinon ils reçoivent une amende au prochain contrôle. Comble de l'ironie, d'ailleurs, sur le portail qu'ils utilisent, le portail numérique de la PAC, les outils actuels ne permettent même pas à ces éleveurs de visualiser le contour de leur parcelle. Il n'y a pas le cadastre qui apparaît sur leur site qui s'appelle Télépac. Il y a juste une photo aérienne des terrains sur lesquels ils sont, et donc il faut imaginer le dessin soi-même, c'est-à-dire que le logiciel de la PAC n'a même pas les données des parcelles impliquées. Ce qui est donc très difficile ensuite de faire un tracé précis des terres qui va venir justement appuyer la déclaration de surface. En 2026, les contrôles des surfaces devraient concerner 5% des dossiers PAC à l'échelle nationale. Autrement dit, donc tous les agriculteurs qui réalisent une déclaration à la PAC en France peuvent être contrôlés sur cet aspect, confirme d'ailleurs celui qui s'occupe de la PAC à la Confédération paysanne d'Ariège. Au début de ce mois de juin, personne n'était encore capable de dire comment ces nouveaux contrôles seraient donc mis en œuvre à l'automne prochain, puisque c'est le calendrier qui est annoncé. Les syndicats agricoles de tous bords se réunissent régulièrement avec le ministère de l'Agriculture pour essayer de trouver des modalités d'application acceptables, mais pour l'instant, aucune décision n'a été communiquée, ce qui laisse ces éleveurs dans l'expectative. Et on nous explique aussi dans l'article le pourquoi de ce maintenant que ça arrive. Cette obligation pour les États donc, de vérifier que leurs agriculteurs maîtrisent réellement leurs terres, elle existe dans les textes européens depuis une quinzaine d'années au moins, donc pour certainement éviter la fraude à la PAC, mais elle n'avait jamais été appliquée de façon stricte en France. Et donc c'est suite aux pressions répétées que cela arrive. Il est difficile en tout cas pour les observateurs de comprendre ce que veut exiger l'Union européenne, sinon un redoublement des efforts français pour lutter contre la fraude, un objectif d'ailleurs que les syndicats agricoles acceptent et ne remettent pas du tout en question. Mais ils expliquent que les aides PAC représentent une telle manne pour le secteur, justement qu'ils s'aperçoivent que certaines structures déclarent abusivement des surfaces. Mais, explique ce délégué syndical, il y aurait un moyen de cibler beaucoup plus les contrôles. Il donne l'exemple de cette famille des Émirats Arabes Unis qui touche des millions d'euros d'aides de la PAC. Il dit qu'il a peut-être du boulot à faire ailleurs que de taper dans les zones pastorales où on est souvent sur des métiers et des vocations très précaires.
Oh, c'est quand même bien fait. Oh là 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 là.
On termine ces nouvelles du monde avec un petit coup de projecteur sur ce qui se passe en Bolivie, où la situation de mouvement populaire, de rébellion contre le gouvernement Paz, qui est le nom du nouveau président, continue. Le gouvernement, justement, s'apprête à déclarer l'état de siège et donc possiblement d'utiliser l'armée contre les blocages de routes. Ça fait 5 semaines que les manifestations et les blocages se tiennent dans ce pays contre les mesures d'austérité de Rodrigo Paz. Elles ont plongé le pays dans une crise, marquée donc par ces barrages routiers qui empêchent l'approvisionnement des grandes villes, par exemple, en carburant, et un bilan déjà de 7 morts de la part des manifestants face à la répression policière. Pendant ce temps, donc, les États-Unis, eux, menacent, et le secrétaire de la guerre des États-Unis, Pete Hegseth, apporte, lui, son soutien au gouvernement en place et menace le pays d'une intervention. Alors, on revient sur cette menace d'état de siège. C'est le président bolivien donc, qui a reçu ce dimanche l'autorisation de son parlement de recourir à l'armée pour lever les barrages routiers qui sont tenus depuis 5 semaines par des paysans, des mineurs, des transporteurs ou autres travailleurs. Tous manifestent et réclament sa démission en raison de la grave crise économique que connaît la Bolivie. Le président Paz est au pouvoir depuis 6 mois, président de centre-droit, mais ça fait centre-très-droite. Il envisage de décréter l'état d'exception, ce qui pourrait lui permettre de recourir davantage à l'armée et de restreindre davantage les libertés de réunion et de circulation de la population. Jusqu'à présent, les militaires étaient avec une participation très limitée, tant en termes d'effectifs que de déploiement de matériel. C'est plutôt la police anti-émeute qui restait en première ligne lors des opérations visant à dégager certaines routes. Et la population en face, on peut le dire, ne se laissait pas faire. Dernière action en date, par exemple, ce samedi, dans la ville de Santa Cruz, avec justement des blocages de routes qui ont fait 15 blessés. Les manifestants, en tout cas, maintiennent ces barrages en au moins 80 points du pays, avec des gravats, des troncs d'arbres en travers des routes. Initialement, c'était pour réclamer des hausses de salaire ou d'autres mesures sociales. Le déblocage des prix du carburant a suscité la dernière étincelle qui a mis le feu aux poudres. Ces barrages et blocages ont provoqué, je vous le disais, de graves pénuries de nourriture, de médicaments, mais aussi de carburant dans la capitale La Paz, qui est le siège du gouvernement, et aussi dans la ville voisine d'El Alto, un petit peu le fer de lance de la contestation. Ces blocages affectent également, dans une moindre mesure, la ville de Cochabamba dans le centre, de Potosi au sud-ouest et d'autres régions. Un des articles de la loi qui a été adopté ce dimanche prévoit que les militaires, donc s'ils interviennent, vont bénéficier pendant l'état d'exception d'une présomption de légalité. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'a priori, tout ce qu'ils vont faire est légal. Ainsi donc que le gouvernement devra assurer leur défense juridique, en cas de bavure bien évidemment. C'est une disposition qui vise à dissiper les craintes de ces militaires d'être poursuivis au pénal pour usage de la force si la situation l'exigeait dans un contexte de conflit. Et ça s'est d'ailleurs vu par le passé. Donc c'est un petit peu un blanc-seing, une carte blanche donnée du gouvernement à ses forces. Et ça laisse évidemment la porte ouverte à énormément de dérapages. Pour ce qui est géopolitique et le côté justement du soutien des États-Unis d'Amérique, dans ses récentes déclarations, Pete Hegseth, le secrétaire à la guerre, indiquait que les États-Unis surveillaient les mobilisations en Bolivie. Il déclare que les États-Unis se tenaient prêts à intervenir contre le narcotrafic, puisque c'est désormais le nouveau terme qui permet de justifier tout, un peu comme le terrorisme. La rhétorique donc états-unienne est lourde de menaces et vise à préparer politiquement une éventuelle intervention, ou en tout cas un soutien d'une répression féroce de la part du gouvernement bolivien. D'ailleurs, ces derniers jours, il y a eu des réunions avec le président Paz entre Pete Hegseth et Marco Rubio pour justement l'assurer du soutien direct de Washington face à la montée de la mobilisation avec ce calendrier où le président vient de promulguer l'état d'exception. En tout cas, il est en bonne voie. Et alors que la police a arrêté en pleine rue 5 dirigeants syndicaux et que le président appelait ouvertement des milices d'extrême droite à débloquer les points de blocage. La prise de position des États-Unis coïncide d'ailleurs avec la nomination de Ernesto Giustiniano, qui est un homme politique lié à la droite néolibérale, au secteur très proche de Donald Trump. Il est nouveau ministre de la Défense de la Bolivie. Si le président Paz devait perdre son poste, ainsi que le réclament d'ailleurs les manifestants, sa démission, cela représenterait en effet un gros revers pour les États-Unis, alors qu'ils sont en train de chercher à restaurer leur influence et leur domination en Bolivie, mais de manière plus générale en Amérique latine. Et puis aussi, justement, pour les gouvernements d'extrême droite locaux qui rivalisent de servilité avec Donald Trump. On peut parler de Milei, extrêmement impopulaire en Argentine, ou Antonio Kast, qui est fragilisé par une vague de mobilisation étudiante dans son pays aussi. La Bolivie occupe donc une place centrale dans cette offensive, en raison notamment de ses ressources stratégiques, puisque le pays est situé au cœur de ce qu'on appelle le triangle du lithium. Voilà pour les analyses un petit peu plus géopolitico-marxistes. D'ailleurs, le dernier mot au site Révolution Permanente, qui documente beaucoup la situation. Et il rappelle donc en effet, cette offensive ne se limite pas à la Bolivie, puisque les États-Unis accentuent aussi leur stratégie d'asphyxie économique à Cuba en ce moment, avec de nouvelles sanctions, le maintien de Cuba sur la liste des États soutenant le terrorisme et des pressions diplomatiques qui aggravent sur place considérablement la crise sociale. Dans toute la région, de manière générale, Washington semble chercher à réaffirmer son autorité par la pression économique, politique et militaire. Et toujours sous couvert de lutte contre le narcoterrorisme, l'administration Trump prépare politiquement la possibilité donc d'une intervention de sa part en Bolivie, avec une rhétorique qui rappelle mot pour mot celle qui a été mise en place pour le Venezuela, le narcoterrorisme servant à criminaliser toute opposition ou mobilisation populaire et permettant de légitimer les ingérences des États-Unis d'Amérique sur ce qu'ils considèrent visiblement encore un petit peu comme leur empire.
L'espoir est la base de toutes les rébellions.
Mais il n'y a aucun espoir.
Moi, je dis qu'il faut se battre.
Et voilà les amis, c'est là-dessus qu'on se quitte un petit peu de musique quand même, avec une nouveauté par The Thievery Corporation qui reprennent justement l'hymne chilien bien connu des années 70, El Pueblo Unido. Rendez-vous jeudi prochain.
El pueblo unido. jamás será vencido.
Des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interviews, communiqués. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Mais que se passe-t-il?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.